Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Y a-t-il un déni de justice dans l'affaire Sarah Halimi, cette femme juive tuée par son voisin musulman? Ses défenseurs en sont convaincus alors que la juge d'instruction écarte pour l'instant la motivation antisémite. Dans ce journal, nous écouterons le président du consistoire israélite, Joël Mergui. L'actualité politique, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, rattrapée par l'affaire des assistants au Parlement européen. L'enquête qui vise déjà plusieurs partis porte sur des soupçons d'emploi fictif. La France insoumise dénonce une affaire montée par le Front National, le reportage de Christine Monclin. À l'étranger, les séparatistes pro-russes du Donbass veulent créer un nouvel État pour remplacer l'Ukraine. Ce nouvel État s'appellerait la Petite Russie. Et puis en Turquie, la directrice d'Amnesty dans le pays reste en prison avec 5 autres militants des droits de l'homme. C'était le 4 avril dernier, dans un appartement HLM du quartier de Belleville à Paris, Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans, était massacrée et défenestrée par son voisin de palier musulman, Kobili Traoré, âgé de 27 ans. Il l'avait rouée de coups en hurlant à la Ouagbar. Sarah Halimi est morte dans la cour de son immeuble. Son agresseur criera encore « J'ai tué le shaitan, le démon en arabe ». Traoré a été placé en hôpital psychiatrique. La semaine dernière, la justice a fini par le mettre en examen pour homicide volontaire, ce qui exclut la préméditation. Mais surtout, la juge d'instruction n'a pas retenu la qualification antisémite pour ce crime. Traoré lui-même nie avoir agi par antisémitisme. Incompréhensible et choquant pour les proches de Sarah Halimi et pour les responsables de la communauté juive. Joël Mergui est le président du consistoire israélite de France.
3 mois et demi après un assassinat, alors qu'on a l'assassin sous la main, on est encore en train d'hésiter sur la qualification d'un crime qui a été commis en pleine nuit à Paris, avec ces longues minutes de torture qui ont été vues par les voisins, qui ont été entendues, les cris de cette femme. Et 3 mois et demi après, on se pose encore la question. J'aurais pu comprendre au tout début qu'il y a un doute, parce qu'il y a le temps d'entendre les gens, d'écouter les témoins. La personne a été entendue. Elle a reconnu qu'elle savait que cette femme était juive. On pourrait dire qu'il était dans un état autre, il ne savait pas où il était. Il a dit qu'il y avait une Torah chez elle. Alors, il reconnaît qu'elle est juive, il y a une Torah chez elle, il crie à la Akbar, il lit des sourates du Coran, il la torture, et on doute. Mais au moins que ce soit dans les chefs de mise en examen, de façon à ce que l'enquête puisse après dire clairement ce qui s'est passé. Je ne saurais pas dire pourquoi cette qualification n'est pour l'instant pas retenue. C'est surprenant, c'est décevant. Et c'est même inquiétant.
Joël Mergui répondait à Antoine Marette dimanche dernier lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Emmanuel Macron avait évoqué cette affaire. Malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit désormais faire toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi, avait dit le chef de l'État. L'actualité politique est dominée ce soir par cette enquête judiciaire qui vise Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Il s'agit en fait de l'affaire des assistants au Parlement européen. La justice cherche à savoir s'il s'agit d'emplois fictifs ou non. L'enquête visait déjà les eurodéputés du Modem, des Républicains et du PS. Le parquet de Paris a décidé de l'élargir à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. À l'origine de cet élargissement, on trouve une nouvelle fois un signalement effectué par l'eurodéputé FN Sophie Montel, le reportage à l'Assemblée de Christine Monclin.
Jean-Luc Mélenchon sort à peine de sa conférence de presse à l'Assemblée nationale. Sa collaboratrice lui fait lire l'article du Parisien qui révèle que la justice a donc élargi son enquête préliminaire à 3 de ses anciens assistants.
Non, je découvre ça en même temps que vous. Hein.
Aucun de mes assistants ne travaillait pour le parti de gauche, assurera-t-il un peu plus tard. Son ami, le député Alexis Corbière, se place aussitôt sur le terrain politique.
Une fois de plus, ce sont des lettres de dénonciation et des dénonciations de l'extrême droite française. Et que dans cette famille politique-là, on a l'habitude des dénonciations. Des pratiques de corbeau, et ça nous laisse assez tranquille. Non, il n'y a aucun problème.
Au moment de l'enquête sur les eurodéputés du Modem, c'est la même élue du Front National, Sophie Montel, qui avait dénoncé les postes présumés fictifs. Elle avait alors fourni à la justice toute une liste d'élus du Modem, donc, mais aussi PS, LR et Europe Écologie Les Verts, et à présent 3 assistants de Jean-Luc Mélenchon. Tous sont soupçonnés d'avoir été payés par l'Europe pour travailler en réalité pour leur propre parti. Sophie Montel a agit ainsi pour briser, dit-elle, le deux poids deux mesures dont serait victime le FN, le parti de Marine Le Pen ayant déjà dans ce dossier 17 enquêtes en cours et 4 mises en examen, dont Marine Le Pen elle-même et deux de ses assistants.
Christine Moncla, merci. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karachi, l'ancien ministre de la Défense François Léotard a été mis en examen par la Cour de justice de la République. Il s'agit de l'enquête sur un éventuel financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. François Léotard a été mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. C'est une nouvelle provocation des séparatistes pro-russes dans la crise ukrainienne. Les autorités du Donbass veulent créer un nouvel État destiné ni plus ni moins à remplacer l'actuelle Ukraine. Les partisans de Moscou proposent d'organiser un référendum sur tout le territoire ukrainien. Ils ne doutent pas de leur victoire qui aboutirait à la création de la Malorossiya, la petite Russie, une appellation qui renvoie à l'époque tsariste. Les explications à Kiev de Stéphane Sioran.
Même si la guerre du Donbass continue de gronder quotidiennement, cela faisait un long moment qu'on n'avait pas entendu tonner les responsables séparatistes de Donetsk. Leur leader, Alexander Zakharchenko, a sorti l'artillerie lourde. Il a proclamé ce mardi la naissance de la Malorossiya, un nouveau pays qui doit remplacer l'Ukraine actuelle, un état défaillant selon lui, caractérisé par son idéologie néo-nazie, je cite, et coupable d'un génocide contre son propre peuple. La Malorossiya est un concept hérité du passé. La petite Russie était le nom donné aux terres ukrainiennes lorsqu'elles firent partie de l'Empire des Tsars entre la fin du XVIIe siècle et la révolution bolchevique de 1917. Cette idée est réapparue il y a quelques années dans la bouche de certains idéologues du Kremlin, pour lesquels l'Ukraine n'est ni plus ni moins qu'une province russe qui n'a aucun destin national propre. En tout cas, les leaders séparatistes veulent désormais remplacer l'Ukraine par la Malorossiya, un état dont la capitale serait bien entendu Donetsk, alors que Kiev ne conserverait que le statut de ville historique et culturelle. Dans ce nouvel état considéré comme une extension de la Russie, l'état d'urgence serait instauré, l'activité des partis politiques interdite. Mais bizarrement, les dirigeants de Donetsk souhaitent conserver la liberté de voyager en Europe sans visa Schengen, une mesure pourtant acquise récemment par cette Ukraine moderne.
Stéphane Sioan, correspondant en Ukraine. Un an après le coup d'État raté, la Turquie d'Erdogan n'en finit plus de s'enfoncer dans la répression. Nouvelle illustration aujourd'hui avec le maintien en détention de la directrice d'Amnesty Turquie, İdil Eser. Elle avait été interpellée au début du mois avec 9 autres défenseurs des droits de l'homme. On ne sait toujours pas précisément ce que lui reproche la justice turque. On retrouve à Istanbul Alexandre Billet.
Les 10 militants associatifs ont été arrêtés lorsqu'ils participaient à un séminaire à Istanbul. Ils ont été arrêtés pour soutien à un groupe terroriste. Et ce sont leurs dossiers qui ont été examinés aujourd'hui. 4 sont libérés dans l'attente de leur procès. 6 autres, dont İdil Eser, directrice d'Amnesty Turquie, sont maintenus en détention. En juin, c'était le président de la branche locale d'Amnesty, Taner Kilic, qui était lui arrêté pour des liens supposés avec l'organisation de Fethullah Gülen, du jamais vu pour Amnesty International, selon Andrew Gardner, chercheur associé.
Amnesty International fait face à une situation sans précédent en Turquie. Jamais dans l'histoire de notre organisation, le président et le directeur d'une branche nationale se sont retrouvés au même moment derrière les barreaux. Les chefs d'accusation portés contre eux sont similaires et tout aussi ridicules les uns que les autres.
On ne connaît pas encore la date du procès des accusés, ce pourrait être dans plusieurs mois. Et parmi les militants associatifs arrêtés, 2 ressortissants étrangers, un Suédois et un Allemand qui a été lui maintenu en détention provisoire. Et déjà, le président Erdogan avait laissé entendre que les activités du groupe arrêté début juillet étaient, je cite, « dans la suite logique de la tentative de putsch ». Ils pourraient tous d'ailleurs faire face à de nouveaux chefs d'accusation, dont financement de groupes terroristes et espionnage.
Alexandre Billet, le correspondant de RFI en Turquie. C'est un cuisant revers pour Donald Trump. Le président américain ne dispose pas de la majorité nécessaire au Congrès pour abroger l'Obamacare, le système de santé mis en place par Barack Obama. Plusieurs sénateurs républicains refusent le texte proposé par l'administration Trump. Résultat, le vote d'abrogation prévu dans les prochains jours devrait échouer. C'était pourtant pourtant l'une des principales promesses de campagne du candidat Trump. Laissons l'Obamacare s'écrouler, ce sera plus simple, a déclaré tout à l'heure Donald Trump à la Maison Blanche. La météo demain, marquée par une dégradation orageuse à l'ouest, 5 départements du sud-ouest sont d'ores et déjà placés en alerte orange. Ces orages progresseront vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine en cours de journée. Les averses seront fréquentes. Tout à l'est, le beau temps chaud se maintiendra. Température maximale en baisse de 20 à 26 degrés sur la façade atlantique. 26 à 31 sur le reste du pays, jusqu'à 35 degrés dans l'est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.